la radio des entretiens territoriaux de Strasbourg, en direct sur Fréquence T.
Un petit moment nostalgique dans ces ETS, puisque c'est la dernière émission de cette version 2021. On va la terminer avec Lucie Sidan, qui est docteur en droit public, consultante en urbanisme et qui intervient à distance. Bonjour Lucie Sidan. Merci d'être là. Bonjour, vous m'entendez ? Vous êtes là ?
Oui.
Oui, bonjour. Voilà, non, il y a une tradition à la radio, on dit toujours bonjour, comme ça on vérifie si la personne est bien présente en distance, notamment hein, quand on n'a pas en face. Donc voilà, merci, je suis complètement rassuré. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez reçu, entre autres, le prix de thèse 2021 du CNFPT pour une thèse intitulée « Le droit public face à la capacité de charge, l'administration des territoires de la zone côtière ». Il nous faudra ensemble définir ce qu'est une capacité de charge, comment les territoires y sont confrontés et surtout, quelles réponses les élus peuvent y apporter. Surtourisme, protection des espaces naturels, de la biodiversité, à l'instar des jauges dans le monde du spectacle, il faudra gérer de plus en plus en amont la charge recevable par un territoire lorsqu'il est confronté à un surcroît d'attractivité. Comment faire pour marier les deux, à savoir vendre les atouts de son territoire tout en le protégeant d'un afflux trop massif qui en menacerait les ressources. À travers l'exemple des littoraux, c'est toute une philosophie qui peut se déployer d'un développement raisonné des territoires. Lucie Sidan, donc vous avez travaillé pendant 7 ans, hein, c'est ça, 7 ans
tout à élaborer cette... Tout à
absolument. Donc, Alour, voilà, vous êtes vraiment bien au fait de cette question-là. Est-ce que vous pouvez nous définir, pour un public un peu large, certes avisé, hein, vous savez qu'au ETS, il y a quand même des personnes qui peuvent très vite comprendre de quoi on parle, mais en même temps, voilà, qu'est-ce qu'une capacité de charge ?
Alors, je pense qu'avant d'entrer dans la question de la définition précise de la capacité de charge, peut-être que je peux expliquer pourquoi on est arrivé à faire ce travail de thèse. Ça permettra de comprendre évidemment mieux la définition qu'on va donner. Donc, la capacité de charge, elle entrait parmi des notions qui peuvent être comprises par le droit, et en particulier sur des espaces littoraux, côtiers et ou marins. Mais la mention claire de capacité de charge, dans le domaine du droit, c'est une évolution qui est assez récente. Et il s'agit surtout d'une avancée qui est due à un protocole international, le protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières en Méditerranée, qui a été signé en 2008 et qui est entré en vigueur en 2011. Et c'est la première fois qu'on avait cette mention claire de capacité de charge dans un texte juridique, et un texte donc ici international. L'objectif de la thèse, eh bien, c'était de déterminer quels ont été les points de situation et d'étapes qui signalent que le droit public, puisque c'est une thèse de droit public, accepte cette notion qui ne vient pas du droit, qui est extérieure au droit, et comment il peut s'en saisir, avec quels instruments juridiques, et de manière plus générale, comment il peut réaliser l'application de la capacité de charge. Donc la capacité de charge, il n'y a pas d'acceptation juridique dans notre ordre juridique interne, au sens où eh bien, il n'y a pas de définition dans les manuels juridiques, les lexiques ou les dictionnaires juridiques de ce qu'est la capacité de charge. Donc, pour la définir dans un premier temps, eh bien, on peut dire que la capacité de charge, c'est un peu une norme de comportement issue du bon sens. C'est par exemple, on ne charge pas une embarcation au-delà d'un certain poids et qui l'empêcherait de naviguer. Enfin, on a retenu une définition relative plutôt environnementale que je propose de vous donner. C'est la capacité d'un environnement ou d'un écosystème à accepter une activité d'une certaine intensité sans préjudice pour la santé humaine ou pour l'environnement. Et ici, activité, eh bien, on va l'entendre au sens large, ça peut être des rejets de polluants, de déchets, l'intensité d'une activité agricole en fonction d'un sol donné, ça peut être le trafic routier ou des visites sur une certaine zone touristique. Et cette capacité de charge, eh bien, elle va s'apprécier à l'aune de destinations qui sont scientifiques. Donc, on va utiliser la science avec les meilleures connaissances disponibles pour nous éclairer sur cette capacité de charge. Mais on peut aussi avoir une capacité de charge qui va être ressentie. Par exemple, on pense directement au parc des calanques qui a eu des épisodes de surfréquentation. On voyait bien que la capacité de charge était dépassée sans qu'il y ait eu d'analyse scientifique qui y ait établie.
D'accord. Alors, donc, aucune contrainte juridique au moment où l'on parle, mais une appropriation ou un... D'accord. Allez-y. Non.
Non, je ne dirais pas aucune contrainte juridique, mais aucune notion explicite de capacité de charge aujourd'hui dans les textes, si ce n'est dans le protocole international.
D'accord. Alors, prenons justement le parc national des Calanques qui m'est cher, comme vous le savez. Est-ce que, donc, du côté de, hein, autour de Marseille, ce formidable parc régional, hein, c'est ça? Parc national. Voilà. Comment, à un moment donné, on décide d'arrêter de charger? Effectivement, c'était le cas. Je peux en témoigner. Qui décrète? Le préfet? Le directeur du parc? Enfin, quelle est la... Comment ça se met en branle?
Ça va être au niveau du parc lui-même qui a cette possibilité puisque certains espaces naturels protégés ont des outils particuliers qui permettent de réguler la fréquentation. Après, évidemment, c'est une action qui va se faire en collaboration. C'est une action qui va se faire en collaboration avec les collectivités qui sont autour, avec l'intercommunalité, pour gérer les transports, pour gérer les déchets. C'est une vision qu'il faut avoir d'ensemble. Mais les espaces naturels protégés, les gestionnaires ont des possibilités de limiter la fréquentation. Alors plutôt dans les parcs nationaux, dans les cœurs de parcs et dans les réserves, on va avoir des outils qui sont plus avancés.
D'accord. Remontons la France, 1000 km un peu sur la gauche, là-haut, donc Saint-Malo. Pourquoi avoir choisi les zones côtières, comme ça, le littoral breton?
Alors c'est Allô plus la côte méditerranéenne.
Ah oui, pardon. Très bien. Oui, peut-être. Je vous fais confiance. Bon, bref, pourquoi avoir choisi cet endroit pour aller vite?
Alors, en fait, parce que le protocole qui parlait de cette notion pour la première fois, était un protocole dédié à la zone côtière en Méditerranée. Et en Méditerranée, on a des problématiques qui vont être différentes de d'autres côtes.
D'accord.
Donc,
très bien.
C'est vrai que cette notion de capacité de charge appliquée, elle peut évidemment être étendue, mais elle a été étudiée d'abord sur les littoraux méditerranéens.
D'accord, très bien. Alors, les littoraux, comme on le sait, sont fragiles. Des réglementations existent à ce jour pour limiter un urbanisme trop vorace. Comment, en amont, cette approche de capacité de charge permet-elle aux élus d'éviter d'être confrontés à une surfréquentation touristique, par exemple, ou à tous les phénomènes que vous décrivez? Est-ce qu'il y a des stratégies que peuvent éventuellement s'approprier d'autres élus ici présents aux ETS?
Alors en fait, la capacité de charge, il n'y a pas d'outil spécifique pour la saisir, puisque comme elle n'est pas consacrée juridiquement, on n'a pas d'outil particulier pour l'application de la capacité de charge. On va avoir des outils qui sont un peu dérivés, dont on peut se saisir pour évaluer la capacité de charge et effectivement faire une application sur notre territoire. C'est deux outils principaux, l'évaluation environnementale des projets qui évidemment ont une certaine ampleur, on va avoir une obligation d'évaluation environnementale, donc on peut se saisir de ces données-là, et évaluation environnementale qui est aussi nécessaire pour tout ce qui est documents d'urbanisme. Donc ces données-là, dans le cadre de l'évaluation environnementale, elles peuvent être les premières bases pour une évaluation de la capacité de charge. Qui permettront de retravailler le document d'urbanisme, les évolutions et les choix d'aménagement du territoire. Il y a aussi la cohérence de ces choix avec les ressources, leur vulnérabilité, les sensibilités écologiques de tout le territoire. Ensuite, pour toutes les communes finalement, puisque toutes les communes peuvent être avec cette obligation d'évaluation environnementale. Pour les communes littorales, on a ce qu'on appelle la détermination de la capacité d'accueil. La capacité d'accueil, c'est un peu le pendant juridique de la capacité de charge, puisque c'est une notion de la loi littorale, et dans les documents d'urbanisme doivent déterminer cette capacité d'accueil. Alors c'est une notion qui est assez floue aujourd'hui, elle est encore très mal comprise, elle est souvent comprise comme ce qui reste à urbaniser, la capacité d'hébergement, alors que cette notion de capacité d'accueil, c'est finalement déterminer dans les documents d'urbanisme ce que le territoire peut supporter comme activité et usage sans qu'il soit porté atteinte à l'identité physique et aux équilibres écologiques du territoire. Donc cet exercice-là de détermination de la capacité d'accueil peut se faire en lien avec l'évaluation environnementale, ça permet d'avoir une capacité d'accueil qui soit très réaliste en termes de ressources et de sensibilité. Et après, on peut traduire cette vision dans le SCOP, par exemple, qui est l'instrument premier pour déterminer la capacité d'accueil, et par son rôle intégrateur de nombreuses politiques publiques sectorielles, bien, va pouvoir influencer bien la capacité de charge du territoire.
Donc on est plus dans une... On est plus dans une démarche de préfiguration, en quelque sorte, de la riposte nécessaire, plutôt que de, du déclenchement d'un, d'un warning, en quelque sorte, d'une alerte en disant, attention, surcapacité ou capacité dépassée, on ne peut plus recevoir de touristes, on ne peut plus recevoir d'habitations, etc. On n'est pas dans la gestion du présent, mais plutôt dans des documents qui préfigurent l'avenir d'un territoire.
On va dire que pour ne pas être soumis à ces contraintes-là de l'urgence, eh bien dans l'idéal, dans un monde idéal, il faudrait avoir ces réflexions autour de ces documents d'urbanisme, autour du SCOT, en lien avec un PLUI, par exemple. Après, sinon, on est, eh bien évidemment, ça a des impacts directs sur l'ordre public, la sécurité, avec des nombres de flux très importants, et puis des fragilités écologiques, évidemment. Donc après, c'est a posteriori, finalement, des impacts sur l'environnement ou sur l'acceptabilité de changement, c'est a posteriori qu'on va prendre des décisions. Évidemment, il est mieux de les réfléchir en amont dans le cadre, par exemple, de SCOT.
D'accord. Est-ce que dans les documents d'urbanisme tels que vous les avez découverts ou analysés aujourd'hui, ce terme de capacité de charge commence à apparaître, à être écrit, rédigé?
Alors non, on reste cantonné à la capacité d'accueil. Aujourd'hui, on a ce terme-là qui est encore en plus un peu mal compris, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que souvent, on se borne à se dire c'est ce qui nous reste à urbaniser sur la commune, alors que c'est beaucoup plus large. La capacité d'accueil, finalement, c'est avoir une vision systémique de son territoire. Mais aujourd'hui, on est poussé de plus en plus, les communes sont poussées de plus en plus à avoir cette vision. Sous l'influence des services de l'État et notamment également de l'autorité environnementale, quand on fait un document d'urbanisme et qu'on a une évaluation environnementale, on demande un avis à l'autorité environnementale et souvent l'autorité environnementale eh bien, nous pousse à avoir une vision qui est beaucoup plus systémique pardon, et qui va nous dire voilà, est-ce que vous avez analysé la capacité d'accueil par rapport au nombre d'habitants que vous voulez accueillir, par rapport à la ressource en eau, par rapport aux déchets, par rapport aux eaux usées. Donc c'est vraiment... Il y a une réflexion qui est en train de se mener au niveau des communes, mais qui est poussée de plus en plus par l'autorité environnementale.
D'accord, très bien. Est-ce que il y a des exemples dans la thèse que l'on peut découvrir, lire certainement? On peut la trouver d'ailleurs au passage du Sicidan. Elle est accessible.
Elle est en cours de. Enfin, je suis en train de faire les démarches pour la faire publier. Donc pour l'instant, elle n'est pas.
Ah
publiée.
Génial.
D'accord. Mais elle le sera.
Ok, non, c'est normal. Attendez, c'est la moindre des choses. Dire les droits d'auteur, etc. Non, mais très bien. Non, mais moi j'étais tombé sur le résumé en tout cas. Genre, voilà, est-ce qu'on peut quand même déterminer un podium en quelque sorte des communes qui ont intégré, et notamment dans ces zones littorales que vous avez plus particulièrement analysées. Est-ce que vous pouvez nous mettre un peu l'eau à la bouche, c'est le cas de le dire en tout cas, de ce qui se fait déjà et qui pourrait être reproduit, répliqué?
Alors au niveau des communes, j'ai pas forcément d'exemple à vous donner, mais comme je disais tout à l'heure, eh bien en fait, il y a vraiment...
Est-ce que j'ai rêvé Saint-Malo? J'ai rêvé Saint-Malo ou pas? Je vous
oui,
parle de Saint-Malo, mais... Ah non. Ah ben, mais c'était... Voilà, mais écoutez, voilà, j'ai percuté sur Saint-Malo.
Bon,
mais
très bien,
mais je présente mes excuses à tous les auditeurs, et voilà, donc un phénomène inattendu s'est glissé. Non, voilà, désolé pour moi aussi. Très bien, donc c'est pas Saint-Malo, mais donc voilà. Donc d'autres communes? Non, pas vraiment. On peut pas...
D'autres communes, non, pas vraiment, mais comme je le disais, en fait, il y a un mouvement de changement qui est perceptible dans la thèse. On donne plusieurs exemples, mais il n'y a pas... On n'a pas cité de communes précises, mais il y a un mouvement général... qu'on présente de changement des politiques publiques, des pouvoirs publics, de leurs décisions, qui va de plus en plus vers la réalité écologique et qui essaye de prendre en considération cette capacité de charge. Alors évidemment, d'accord, on voit qu'il y a des freins, et ça on l'explique dans la thèse, et comment les lever. On a donné quelques exemples de mobilisation de la capacité de charge, mais plutôt dans les espaces naturels, notamment avec un exemple qui est très, très avancé, c'est le cas du parc national de Port-Cros, qui a vraiment utilisé cet outil de capacité de charge pour réguler la fréquentation touristique de l'île.
Quel est-il, cet outil? Il est quoi? Il est comment il se présente?
Alors, il y a eu plusieurs outils qui ont été utilisés, mais notamment après Porco, c'est une île, donc c'était peut-être plus évident de réguler les flux. Mais par exemple, il y a un certain nombre de visites de bateaux qui est autorisé par jour pour amener les visiteurs sur l'île.
D'accord.
Voilà.
Est-ce que
c'est pareil, il y a des plongeurs, il y a un certain nombre de plongeurs qui est autorisé pour pas abîmer les herbiers de Posidonie notamment.
D'accord. Est-ce que vous avez ouvert le focus à d'autres pays pour voir si certains d'entre eux pourraient inspirer la France dans ce domaine?
Alors non, parce que la thèse était une thèse de droit public. On s'est centré en plus sur le territoire métropolitain et plus particulièrement méditerranéen. Je sais que, par exemple, le Canada utilise beaucoup cette notion de capacité de charge, mais ça demanderait d'aller encore peut-être faire une deuxième thèse pour analyser en droit comparé ce qui est fait dans les autres pays.
D'accord. Donc, 7 ans de plus à mobiliser pour vous.
Donc, ça pourrait être l'occasion de faire de nouvelles recherches, oui.
D'accord, très bien. Lucie Sidan, je regarde un petit peu le public qui, comme vous le savez, enfin vous ne le savez pas, vous ne le voyez pas, est très nombreux en face de moi pour éventuellement repérer une question qui pourrait être posée. Donc s'il y a des volontés de m'aider dans le décryptage de votre travail, n'hésitez pas à lever le bras et on vous tendra un micro. Donc pour le moment, je veux dire, c'est un public sage mais très attentif. Juste sur la manière justement de mener à bien cette évaluation de la capacité de charge, est-ce que le zéro artificialisation nette est une démarche qui peut rentrer dans ce cadre-là? Donc il va bien falloir aujourd'hui s'y mettre. Donc avec cet horizon en 2050 de ne plus construire, hein, c'est ça, de ne plus manger en quelque sorte les sols et de le laisser à la nature en quelque sorte pour qu'elle puisse se régénérer. Est-ce que c'est une bonne illustration du travail que vous avez mené?
On va dire que c'est un premier pas vers cet objectif-là de respecter la capacité de charge du territoire, mais c'est qu'un aspect de cette notion-là de capacité de charge. Parce que par exemple, si on évite d'artificialiser le sol et qu'on construit à la verticale, qui est verticalité, il faut quand même se poser des questions d'accueil de population en termes de ressources. En termes de ressources en eau, en termes de déchets, de collecte de déchets, et de pollution des eaux, puisque nous, en Méditerranée, on a ces questions-là de qualité des eaux. Et donc, c'est des questions qu'il faut se poser. Il n'y a pas juste l'artificialisation d'un côté et le reste des questions de l'autre. Il faut vraiment avoir une vision systémique du territoire, et c'est ce que la capacité de charge, elle essaye d'amener. Mais j'ai conscience que c'est difficile à mener en tant qu'élu ou au niveau d'une commune. Surtout quand, au niveau de sa commune, on est intégré dans une intercommunalité. Et bien là, la prise de décision, elle devient de plus en plus difficile pour un élu. Donc, c'est des questions qui sont difficiles à mener politiquement.
D'accord. Est-ce que depuis le sacre, j'allais dire le sacre, oui, c'est un peu ça, donc depuis que vous avez reçu ce prix de la thèse 2021 du CNFPT, ça a pu susciter éventuellement auprès de notamment de certains élus, députés, législateurs, voire des communes ou autres, un intérêt, on vous sollicite, on essaie de savoir comment ce que vous avez rédigé peut donner lieu à des applications concrètes sur les territoires.
Alors au niveau des communes.
Vous êtes obligé de me dire oui. Hein.
Oui, bien sûr. Bah, au niveau des communes, je travaille dans l'urbanisme, donc évidemment j'ai ce regard. J'apporte un petit peu ce regard au niveau de la capacité de charge. Et je vois bien que c'est pas facile à mener, mais qu'on peut s'améliorer pour tendre vers cette vision-là de la capacité de charge du territoire.
D'accord. Très bien. Oui, puisque vous êtes, je l'ai rappelé, j'ai pas assez insisté, vous êtes consultante en urbanisme, donc vous travaillez justement avec ce tissu de collectivité et vous êtes... Depuis combien de temps maintenant vous êtes consultante, Lucie Sidan?
Depuis un an, maintenant.
Un an. Donc la thèse est terminée. Maintenant, on travaille, entre guillemets, je plaisante bien entendu. Et donc, merci. Merci en tout cas, Lucie Sidan, pour toutes ces explications. C'était la dernière intervention, en quelque sorte, de ces ETS, avec ce petit échange qu'on pourra retrouver, puisque, comme vous le savez, toutes les émissions des ETS sur Fréquence T sont téléchargeables, écoutables pendant 6 mois. Donc, merci à tout le monde. J'ai été absolument... absolument ravi d'animer pour la troisième année donc cette radio web, cette radio des entretiens territoriaux de Strasbourg. Merci à Juliette Guéroué de la société Saouti qui m'a accompagné pour sa patience. Elle était derrière aux manettes techniques et puis je vous dis à bientôt. C'est pas terminé bien sûr les ETS, il y a encore 2-3 rendez-vous, mais on approche de la fin. Merci pour vos attentions, merci à vous tous, à bientôt.
Merci, au revoir.
La radio des entretiens territoriaux de Strasbourg, en direct sur Fréquence T.